Tout de suite le journal Antoine Mercier, bonjour.
Bonjour Olivia, bonjour à tous. Séance inaugurale du nouveau Parlement allemand marquée ce matin par l'entrée d'une centaine d'élus d'extrême droite. Correspondance dans un instant avec Pascal Thibault à Berlin. Les délégués du Parti communiste chinois approuvent un amendement qui inscrit le nom du président Xi Jinping et sa doctrine dans la Constitution. C'est la première fois depuis Mao qu'un dirigeant chinois accède à ce statut de son vivant. Décryptage avec Dominique André dans cette édition. Un compromis trouvé cette nuit sur la révision de la direction du travail détaché. La durée maximale du détachement réduite à 12 mois, mais le principe du paiement des cotisations sociales dans le pays d'origine est maintenu. Commentaire des réactions ce matin avec Sophie Delpont. À l'Assemblée nationale encore, les députés examinent le projet de loi de financement de la sécurité sociale. Objectif, ramener le déficit à 2,2 milliards d'euros l'année prochaine. Précision et chiffres avec Anne-Laure Chouin. Un bureau politique de Les Républicains ce soir devrait exclure de ses rangs 5 de ses responsables pro-Macron, dont le Premier ministre Édouard Philippe. Analyse avec Stéphane Robert, l'invité de la séquence interview, Mathieu Orphelin, qui est député de La République En Marche du Maine-et-Loire. Dans la dernière partie de la grande table, Olivia Gesbert.
Une jeunesse française, nous recevons aujourd'hui le sociologue Fabien Truong pour son enquête menée en banlieue, dans les quartiers populaires, auprès d'une jeunesse dont on parle peu ou peut-être mal. Fabien Truong nous le dira pour cet ouvrage, s'appelle donc « Loyauté radicale, l'islam et les mauvais garçons de la nation ». Il paraît à la découverte.
Et on commence donc par la traduction concrète des dernières élections en Allemagne avec l'entrée au Bundestag d'une centaine d'élus d'extrême droite devenus, on le sait, le parti, la troisième force politique du pays. Leur attitude et leur discours, évidemment, sont scrutés de très près. On retrouve sur place Pascal Thibault. Bonjour.
Bonjour.
Vous assistez avec nous donc pour nous à cette séance d'ouverture de la nouvelle chambre allemande dans laquelle les quelques 92 députés de l'AFD ont pris place avec parfois quand même quelques difficultés.
Oui, effectivement, par exemple, les libéraux qui traditionnellement sont situés dans l'hémicycle à la droite des chrétiens démocrates, eh bien, ça signifiait pour eux être à côté de l'AFD et ils ne le souhaitaient pas. Bon, au bout du compte, ils ont dû aujourd'hui faire contre mauvaise fortune bon cœur et être assis là. Ils espèrent peut-être pouvoir modifier cet ordonnancement à l'avenir. Et on voit, il y a d'autres problèmes qui se posent, notamment par exemple la nomination d'un vice-président de l'AFD auquel le parti a droit, mais c'est une personne qui a remis en cause l'islam, la liberté de la religion, assimilant islam et islamisme, et donc beaucoup de partis ne veulent pas voter pour lui. Les mêmes questions se posent aussi pour les présidences de commissions qui reviennent aussi à l'AFD selon les règles valant au sein du Parlement allemand. Donc des difficultés pour les partis établis à trouver un juste positionnement par rapport à cette nouvelle force.
Alors sur le fond, qu'est-ce que cette entrée de l'extrême droite au Parlement va finalement changer à la vie politique en Allemagne ?
Elle va, d'un côté, c'est l'aspect positif que soulignent également certains qui ne sont pas suspects de proximité avec l'AFD, c'est le fait qu'une voix importante, qu'on le veuille ou non, dans la vie politique allemande sera représentée, qui obligera les autres à se positionner. On a vu aussi que depuis 11 heures, eh bien, beaucoup d'autres orateurs ont pris position sur l'AFD et ça signifie aussi sans doute des débats plus houleux. Il faut dire qu'ils ont été très soporifiques avec une grande coalition au pouvoir durant les 4 dernières années, mais aussi la nécessité pour l'AFD de prouver qu'elle peut agir comme un parti respectable, alors que c'est un parti dans lequel il y a aussi un fort mouvement extrémiste, raciste, identitaire, qui a aussi des députés parmi ces 92 députés, et donc ça sera également l'enjeu de cette législature. Est-ce quel profil trouvera l'AFD au sein du Parlement allemand, du Bundestag à Berlin ?
Pascal Thibault de RFI en direct de Berlin, merci. Et pendant ce temps à Vienne, le dirigeant conservateur Sébastien Kurz, qui était le vainqueur donc des dernières législatives, invite le parti d'extrême droite FPE à des négociations exclusives pour la formation d'une coalition de gouvernement. Démarche qui ouvre donc la voie à un retour au pouvoir du Parti de la Liberté d'Autriche, 17 ans après y avoir été appelé en 2000, c'était par un autre conservateur, Wolfgang Schlüssel. En Chine, les délégués du Parti communiste approuvent un amendement qui inscrit le nom du président Xi Jinping et sa doctrine aussi dans la Constitution. C'est la première fois qu'une telle décision est prise par un président de son vivant, en tout cas depuis Mao Tse-tung. Amendement adopté à l'unanimité ce matin qui stipule que la pensée de Xi Jinping sur le socialisme avec les caractéristiques chinoises pour une nouvelle ère, eh bien tout cela sera l'un des principes directeurs du parti. Formulation qui peut évidemment prêter à sourire. Il n'en reste pas moins, Dominique André, qu'elle traduit bien une nouvelle phase dans l'affirmation de la renaissance de la nation chinoise.
Xi Jinping parle d'une nouvelle grande marche pour l'édification d'un pays socialiste moderne. Avec le lancement officiel de la pensée de Xi Jinping, voté à l'unanimité par les délégués du Parti communiste, on a assisté ce matin à un événement politique considérable dont il est bien difficile encore de mesurer la portée. Ce qu'on peut décrypter de la pensée du président chinois, c'est qu'elle est guidée par l'idéologie marxiste, celle de Mao Tse-tung et celle de Deng Xiaoping, père des réformes d'ouverture économique de la Chine, qui en 1982 a lancé l'idée d'un socialisme chinois, c'est-à-dire ni soviétique ni capitaliste. L'idéologie de Xi Jinping se nourrit aussi de références culturelles inspirées des valeurs morales confucéennes et des écrits du philosophe Ran Fei, qui a développé le concept de l'autorité par la loi. L'objectif de Xi Jinping, c'est de conduire la Chine à la première place mondiale pour le rendez-vous des 100 ans de la République populaire de Chine en 2049, un objectif qui n'est pas présenté en ces termes, mais que l'on comprend quand le président chinois parle de réaliser le rêve chinois du grand renouveau de la nation. Durant ce 19e congrès qui a marqué l'avènement du nouveau timonier chinois, Xi Jinping a plusieurs fois fait référence à, je cite, « l'état misérable d'humiliation dans lequel était plongée l'ancienne Chine après la guerre de l'opium. Les faiblesses actuelles de l'Occident pourraient renforcer la Chine dans son désir de retrouver son statut de grande puissance. L'avenir dira si la pensée de Xi Jinping a pu se réaliser. »
Voilà. Et demain, Dominique André donc, devrait être annoncée la nouvelle équipe dirigeante, s'appelle le comité permanent.
La crise politique entre Madrid et la Catalogne, le Sénat espagnol doit voter vendredi la mise en œuvre de l'article de la Constitution qui permettra, Antoine Mercier, à Madrid d'administrer directement la Catalogne.
Et oui, face à cette menace d'une gestion directe par le pouvoir central, les dirigeants et certains partis politiques de la généralité ont appelé à la désobéissance civile. Le Parlement de Barcelone va, lui, se réunir après-demain pour se mettre d'accord sans doute sur une réponse à apporter. Il pourrait ouvrir la voie à une proclamation d'indépendance officielle. A signalé ce matin parmi les réaction en France, celle de l'ancien Premier ministre Manuel Valls, qui réaffirme sur France Info sa position. L'indépendance de la Catalogne, dit-il, ouvrirait la boîte de Pandore de la dislocation de l'Europe. On l'écoute.
L'Espagne est un État-nation, un des grands États-nations de l'Union européenne. Sa construction est différente de la nôtre. Donc démembrer un État comme l'Espagne, c'est commencer progressivement à démembrer l'Europe. Et dans le monde d'aujourd'hui, avec ces grandes puissances politiques et économiques que sont la Chine, l'Inde, les États-Unis d'Amérique, bien sûr, avec l'émergence de ce grand continent qu'est l'Afrique demain, et l'Espagne, comme nous, est un pays frontière de l'Afrique, un pays méditerranéen, c'est affaiblir non seulement un État-nation, mais c'est affaiblir progressivement l'Europe, et puis c'est ouvrir la boîte de Pandore à la dislocation de l'Europe. Donc il faut être solidaire dans ce moment-là de l'Espagne.
Manuel Valls, donc, c'était avec Jean-Michel Apathy. Compromis trouvé à Luxembourg cette nuit sur la révision de la directive du travail détaché. 12 heures de négociations. La majorité des ministres, donc, ont approuvé la proposition française, en tout cas partiellement, de limiter à 12 mois la durée maximale du détachement, avec dérogation possible toutefois pour 6 mois supplémentaires. L'accord prévoit aussi le maintien du paiement des cotisations sociales dans le pays d'origine. L'Europe avance. Je salue cet accord ambitieux sur le travail détaché, affirmé Emmanuel Macron sur son compte Twitter, et une partie de l'opposition ce matin n'est pas tout à fait sur le même registre puisqu'elle évoque un non-événement. Sophie Delpont, bonjour.
Bonjour.
Bon, alors quels sont les arguments des uns et des autres ?
Alors c'est une victoire incontestable selon la ministre du Travail qui évoque un grand jour pour l'Europe sociale. Selon Muriel Pénicaud, cet accord valide la méthode Macron et la concertation menée par le président de la République qui aurait rencontré 23 des 28 chefs d'État européens. Chez Europe Écologie Les Verts, Karima Deli salue une première étape, mais il faut avancer aussi dans les transports, car l'accord obtenu ne s'applique pas dans ce secteur, pourtant le premier concerné. Beaucoup plus critique à droite, on se moque de nous, lance le député Les Républicains Daniel Fasquelle. Sur Twitter, il met en avant que cet accord limite certes la durée maximale de ces contrats, passant de 24 mois à 12 mois, mais qu'en réalité les travailleurs détachés sont employés en moyenne sur une durée de 4 mois, cet accord n'ayant donc rien de révolutionnaire. Même argument chez les députés socialistes européens qui dénoncent de la poudre de perlimpinpin signé Emmanuel Macron. De son côté, l'ancien bras droit de Marine Le Pen, Florian Philippot, fustige ce qu'il qualifie de réformette. Cet accord n'est qu'un cruel trompe-l'œil, lance pour sa part Jean-Luc Mélenchon dans un communiqué ce matin, déclarant que le gouvernement pavoise pour tromper l'opinion sur un nouveau recul de l'Europe sociale. car le dumping social va continuer impunément. Ce qui n'avance pas recule donc selon lui. Le député de la France Insoumise met en avant que les cotisations sociales resteront effectivement payées dans le pays d'origine.
Sophie Delpont, merci.
À l'Assemblée nationale, après le vote des recettes du premier budget du quinquennat, les députés examinent le projet de loi de financement de la sécurité sociale.
Avec cet objectif de ramener le déficit à 2,2 milliards d'euros l'année prochaine, ce serait un niveau inédit depuis 17 ans. Anne Lorchouin, bonjour.
Bonjour Antoine.
Alors la ministre a parlé de révolution avec ce budget. Dans le détail, quand on regarde précisément, il semble que les ingrédients de cette recette minceur soient assez traditionnels.
En effet, Agnès Buzyn promet donc une révolution douce pour ce budget. Et le mot qu'il faut retenir, c'est donc plutôt douce. Un changement majeur, il est vrai, c'est celui du mode de financement, l'augmentation de la CSG dont on a beaucoup parlé. Mais à part cela et l'alignement du RSI sur le régime général encore loin d'être mis en place, ce budget 2018 utilise les mêmes recettes que les précédents. On demande aux médecins hospitaliers d'éviter la redondance de leurs actes avec des bonus en cas de bonne pratique. Et puis il y a encore et toujours le virage ambulatoire, le fameux, que l'hôpital est apparemment toujours en train de négocier. On augmente également le forfait hospitalier sans douleur directe pour les patients qui verront prendre en charge ces frais par leur mutuelle. Et puis on continue, sans le crier trop fort, de largement faire contribuer les laboratoires à qui le gouvernement va demander encore cette année de faire des remises et des baisses de prix sur les médicaments à hauteur d'1,5 milliard d'euros selon l'industrie pharmaceutique. Grâce à tout cela, la ministre de la Santé annonce donc fièrement que le déficit de la Sécu pourrait être résorbé dès 2018 avec notamment un déficit de la branche assurance maladie largement réduit à moins 800 millions d'euros. Rappelons qu'il y a quelques années, le déficit de l'assurance maladie se chiffrait en milliards. Cela dit, ce que dit le gouvernement, c'est que tout comme l'année dernière, la fin du trou de la Sécu est désormais moins grâce aux économies réalisées que grâce à une augmentation des recettes qui viennent de la hausse des cotisations sociales, de travailleurs plus nombreux, aux salaires plus élevés, et ce malgré un chômage toujours fort dû à un déficit en offre d'emploi par rapport à la demande. Bref, en 2018, c'est surtout la conjoncture qui viendra au secours de la sécurité sociale.
Anne Lorchouin, merci. C'est le dernier grand interrogatoire du procès d'Abdelkader Merah, soupçonné d'avoir été associé au crime commis par son frère en mars 2012, entendu donc ce matin sur l'association de malfaiteurs terroristes et criminels pour laquelle il est notamment poursuivi devant la cour d'assises de Paris, où on retrouve tout de suite Florence Turmont.
Pas de pathologie mentale qui abolirait le discernement, pas de dangerosité au sens psychiatrique du terme. Au-delà de l'objet principal de sa mission, le docteur Ariane Casanova livre un profil qui correspond parfaitement à l'attitude d'Abdelkader Merah durant ses 3 semaines d'audience. Quand elle l'a vu en prison, elle a rencontré quelques réticences, mais globalement un homme à l'aise dans l'échange et la dialectique. Dans le box des accusés, lui écoute avec une certaine attention, la tête posée sur ses bras croisés. L'expert rappelle son passé de délinquant, de toxicomane, cannabis, cocaïne, l'époque aussi des relations multiples, y compris avec des prostituées, jusqu'à la rencontre avec sa femme, musulmane et croyante, qui marque, selon la psychiatre, un point de bascule. Couple stable, 6 ans de vie commune mais pas d'enfants, on apprend au passage qu'ils avaient engagé des démarches pour une procréation médicale assistée et une fécondation in vitro qui n'a pas pu être programmée. Narcissique, Abdelkader Merah, la psychiatre note aussi la fierté du chemin parcouru. Les policiers qui le surveillaient avaient, eux, souligné le prosélytisme qu'il était capable d'exercer dans le quartier des Isards. Une personnalité psychorigide mais bien structurée, des pulsions contrôlées, une anxiété bien gérée, ajoute la psychologue. Il est clair que le recours à l'islam a changé sa vie, précise l'expert. Quand elle le rencontre à Fresnes, alors qu'il est à l'isolement, il se présente aussi comme un bouc émissaire dans cette affaire. Depuis le début du procès, Abdelkader Merah reconnaît seulement sa présence lors du vol du scooter par son frère. Cet après-midi, il sera interrogé une dernière fois sur les faits.
Midi 45 sur France Culture, la suite de votre journal, Antoine Mercier. Un Premier ministre exclu de son propre parti, c'est une première sous la 5e République. Édouard Philippe, ainsi que le ministre du Budget et quelques députés LR constructifs, devraient être exclus ce soir par le bureau politique du parti.
Et oui, LR tente de se reconstituer, donc après le traumatisme électoral du printemps dernier. Dans ce cadre, les constructifs, comme on les appelle, n'ont plus de place apparemment à l'intérieur du parti. Les exclus affirment ne pas vouloir pour autant adhérer à En Marche. Mais alors, Stéphane Robert, bonjour.
Oui, bonjour Antoine.
Vous êtes à l'Assemblée avec notre invité pour tout à l'heure. Où vont donc habiter maintenant, politiquement, notamment le Premier ministre? Où va-t-il habiter?
eh bien, a priori, lui et ses amis sont en train d'essayer de construire une nouvelle formation politique. Et ce n'est pas simple si on veut le faire sérieusement, explique-t-il. Un parti politique, ce n'est pas une mince affaire. Il s'agit de ne pas faire n'importe quoi, n'importe comment et avec n'importe qui. Et un de leurs problèmes, c'est qu'il y a déjà du monde sur le créneau politique qu'ils prétendent occuper, c'est-à-dire l'aile droite du macronisme. Déjà, il y a le MoDem de François Bayrou qui fait office de satellite de La République En Marche. Il y a aussi l'UDI qui est divisé en plusieurs formations politiques, aujourd'hui difficilement identifiables aux yeux des Français. Les constructifs veulent donc éviter de créer une énième formation de centre-droit et se retrouver, au bout du compte, noyés dans le marais centriste. Leur difficulté sera donc pour exister d'essayer de se différencier à l'ombre du macronisme. Et d'un autre côté, vous le disiez Antoine, la droite, LR, les Républicains, essaie de se reconstruire en clarifiant les choses, en se séparant de ceux qui ne se situent pas complètement dans l'opposition, en reconstruisant en quelque sorte des murs politiques. Car il faut bien comprendre ce qui s'est passé avec l'élection d'Emmanuel Macron. C'est une explosion politico-nucléaire qui a fait voler en éclats les clivages et les structures existantes. Il n'y a plus ni droite ni gauche, il n'y a que du cas par cas et du en même temps. Parce que c'est quoi le macronisme au bout du compte ? C'est le pari que notre société est en train de changer structurellement, que la mondialisation et l'avènement du numérique est en train de bouleverser les choses et donc que les vieilles structures électorales, institutionnelles ne permettent plus de répondre à la nécessaire organisation de la société française et de la société dans son ensemble. Et le macronisme donc, c'est le pari que ce bouleversement en cours est durable et donc que les partis politiques tels qu'on les a connus jusqu'ici appartiennent au passé. Dès lors, ce qui est en train de se passer chez les Républicains, c'est une séparation entre ceux qui font ce pari-là, comme Macron, les constructifs, et ceux qui, derrière Laurent Wauquiez, les LR canal historique en quelque sorte, font le pari inverse et qui estiment donc qu'on reviendra au clivage qu'on a connu par le passé.
Et donc au supposé ancien monde. Stéphane Robert, merci. Vous êtes évidemment avec nous pour notre invité qui est Mathieu Orphelin, député La République En Marche du Maine-et-Loire en direct de l'Assemblée nationale. Bonjour monsieur.
Bonjour à vous.
Est-ce que vous vous sentez, vous, appartenir au nouveau monde ? Qu'est-ce que ça a fait ?
Moi, j'aime pas trop cette différenciation ancien monde, nouveau monde. Par contre, je revendique vraiment d'être dans une façon différente de faire la politique, de se rassembler sur un projet, de chercher à répondre à qu'est-ce qui nous rassemble, effectivement, plutôt que de chercher, comme précédemment, un clivage permanent qu'arrangeait tout le monde, qu'arrangeait toutes les formations politiques, mais qui faisait pas avancer le pays et dont les citoyens ne voulaient plus non plus. Donc moi, c'est vraiment ça. C'est
mais quel est-ce, que, le projet est-ce que la démocratie peut s'accommoder du fait qu'il n'y ait pas de clivage ?
Non, ça veut... Il faut qu'il y ait des débats d'idées, et ça on les revendique, etc. Mais il faut qu'on sache se rassembler sur les projets qui bénéficient à tout le monde. Je pense à la transition écologique, je pense à plus de solidarité, à la relance pour l'emploi durable, etc. Tous ces sujets-là, ça mérite mieux que des jeux de posture, ça mérite mieux que des clivages entretenus par les petites phrases, par les uns et les autres. Donc c'est ça aussi. Moi, ce qui m'a plu dans En Marche, ce qui m'a plu dans la démarche d'Emmanuel Macron, c'était voilà, qu'est-ce qui nous rassemble ? Qu'est-ce qu'on va porter ensemble ? Qu'est-ce qu'on fait dans l'intérêt collectif ? C'est ça que ne permettait pas le jeu politique traditionnel.
Question de Stéphane Robert.
Oui, alors, Mathieu Orphelin, vous avez été chez Europe Écologie Les Verts avant de rejoindre La République En Marche. Et il y a quelques jours, vous avez, avec 17 autres députés de la majorité, fait un certain nombre de propositions pour modifier, pour aménager, pour encadrer, je ne sais pas quel est le meilleur terme, mais le traité, le CETA, donc le traité de libre-échange entre l'Europe et le Canada. Qu'est-ce qui fait le gouvernement va demain présenter un plan d'action hein, pour sur la question, pour modifier, pour aménager ce CETA. Qu'est-ce qui vous pose problème à vous ? Qu'est-ce que vous voulez qu'on modifie dans cet accord pour que vous puissiez l'accepter ?
D'abord, effectivement, 18 députés de La République En Marche, avec des sensibilités assez différentes sur ce sujet du CETA. Certains le voyant d'un œil très favorable, d'autres comme moi ayant plus de doutes. C'est aussi ça, cette méthode d'arriver, on est arrivé à converger sur ces 28 recommandations qui répondent à ce que les experts ont dit au début septembre. C'est-à-dire, oui, le CETA peut poser problème sur l'agriculture et l'alimentation, sur l'énergie et le climat, sur la transparence aussi qui n'a pas été très forte sur cet accord. Donc nous, on a pris ces recommandations et on les a traduits en propositions, par exemple sur l'agriculture et l'alimentation, pour accompagner et aider nos éleveurs, pour étiqueter les produits, notamment sur la viande et les produits transformés. C'est important que les consommateurs sachent dans quelles conditions étaient produits les produits qu'ils consomment. Et puis sur l'énergie et le climat, on a voulu traduire cette notion qu'avaient apporté les experts de veto climatique. Très concrètement, il faut qu'aucune décision prise grâce au CETA ne puisse aller contre la lutte contre le réchauffement climatique. C'est ça qu'on porte avec cette concrétisation du veto climatique. C'est important. Le climat était le grand absent du CETA. Il faut que le plan d'action du gouvernement puisse contrer ces effets potentiellement négatifs.
Comment vous allez faire, Monsieur Orphelin, comment vous allez faire pour réintroduire ces clauses dans l'accord maintenant ?
Nous, on fait des propositions très concrètes. Très concrètement, par exemple, que le Canada, la France, l'Union européenne complètent le CETA à côté par un accord qui montre bien que le climat ne peut être, que les politiques climatiques ne peuvent être mises en question par le CETA et notamment par les tribunaux d'arbitrage. Deuxième chose aussi, taxer, on l'a mis dans nos taxer au niveau français, les hydrocarbures les plus polluants et notamment par exemple pétrole issu de sable bitumineux ou choses comme ça, qui sont déjà importés en Europe mais qu'il ne faudrait pas qu'il y en ait encore plus. Et donc ça, la France peut prendre ses responsabilités en disant assez vite, je vais taxer les pétroles qui ont le plus d'impact sur le climat.
C'est-à-dire concrètement qu'on limite ou qu'on interdit un certain nombre d'échanges qui porteraient préjudice au climat ?
C'est interdire, en tout cas les dissuader. Effectivement, oui, les pétroles issus de sable bitumineux ne sont pas bons pour le climat. Donc oui, il faut surtout pas qu'on en importe plus. Et ça passe par une taxation de ces produits-là. Les problèmes posés par le CETA, je répète, ils sont sur des secteurs bien particuliers. Agriculture, alimentation, climat et énergie. C'est là-dessus qu'il faut faire porter les efforts de ce plan gouvernemental que moi j'espère ambitieux demain, le plus ambitieux possible.
Nicolas Hulot disait c'est pas un bon accord, il faut le supprimer. Est-ce qu'il finalement, il faut essayer de faire avec, il faut faire un compromis là-dessus.
Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il est déjà, pour une bonne partie, entré en application. Tout ce qui est de la compétence du commerce, compétence Union européenne, des échanges, c'est déjà en application. Donc, dès maintenant, on a besoin de ce plan. Mais viendra dans quelques mois, sans doute à l'automne 2018, le temps de la ratification par le Parlement français. Et je crois que les uns et les autres, à ce moment-là, on sera éclairés du plan d'action du gouvernement, de comment il s'est mis en place les premiers mois et que ça nous permettra de faire le vote le plus opportun possible.
Il y a un autre vote prévu demain au niveau de l'Europe sur le glyphosate. La Commission européenne préconise de prolonger l'utilisation de ce glyphosate. C'est le composant du Roundup, hein, un herbicide fabriqué par Monsanto. La Commission européenne propose de prolonger ça de 10 ans. Nicolas Hulot dit 3 ans. Le ministre de l'Agriculture, Stéphane Travert, membre de ce gouvernement, dit 5 à 7 ans. Comment on fait ? Qu'est-ce qu'on fait ? Et qu'est-ce qui est acceptable selon vous ?
D'abord, ce qui n'est pas acceptable, c'est de renouveler pour 10 ans. Et la France a clairement dit que demain, elle votera contre le renouvellement de 10 ans. Donc ça, c'est la position du gouvernement. C'est très bien. J'espère que la France sera suivie par une majorité qualifiée de pays demain. Après, on peut pas sortir. D'abord, il faut rappeler que c'est interdit pour les usages par les particuliers ou les collectivités. Donc on est déjà dans ce mouvement. On l'a fait pour des questions de santé, on l'a fait pour des questions d'environnement, d'impact sur l'eau notamment. Maintenant, on se pose la question de quel est le bon timing pour accompagner nos agriculteurs dans cette sortie du glyphosate. C'est là où on peut avoir des discussions qu'on va éclairer d'ailleurs avec une mission parlementaire qui commence demain. Mais moi, j'ai bon espoir qu'on trouve un consensus. Voilà, on a vu effectivement une option de 3 ans pour sortir définitivement et au niveau européen du glyphosate. Moi, c'est l'option que je pousse, évidemment. Il y a d'autres appréciations pour l'instant. Il faut qu'on arrive à converger et qu'on converge avec les agriculteurs et pas contre les agriculteurs.
Pour revenir à la question peut-être de départ, est-ce que vous pensez qu'il est nécessaire qu'il y ait toujours un parti écologiste, un parti vert, Europe Écologie Les Verts par exemple, ou est-ce que précisément dans cette nouvelle façon de faire de la politique, toutes ces préoccupations sont intégrées, si je puis dire, dans le ni gauche ni droite ?
Moi, je pense que ça peut être utile. Moi, j'ai été 2 ans chez Europe Écologie Les Verts. Je pense qu'un parti centré sur ces questions d'écologie peut toujours être utile. Maintenant, ça ne suffit pas. Et l'avenir, on va réussir la transition écologique, la transition énergétique, si on arrive à en faire la colonne vertébrale des partis majoritaires. Parce que c'est là qu'on peut vraiment faire changer les choses. C'est le pari de l'action qu'on a fait en venant à La République En Marche. Je crois que voilà, si on veut vraiment changer les choses, il faut que tout le programme économique, notamment, puisse prendre en compte ces dimensions-là. Donc voilà, je crois qu'on a besoin, l'écologie, elle a besoin vraiment d'être portée, y compris par les forces qui sont majoritaires, parce que c'est quand même là qu'on a le plus de poids pour engager cette transformation du pays.
Merci, merci beaucoup Mathieu Orphelin, donc député de La République En Marche du Maine-et-Loire. Vous étiez en direct avec nous et avec Stéphane Robert depuis l'Assemblée nationale, avec Stéphane Beaufils pour les moyens techniques. La production mondiale de vin chute de plus de 8% cette année, en 2017, donc au plus bas depuis 50 ans, et ce en raison de conditions climatiques défavorables. Production 2017 historiquement faible, due en grande partie aux mauvaises récoltes consécutives aux aléas climatiques statistiques enregistrées par les trois plus gros producteurs de vin du monde. Italie, moins 23%, France, moins 19% et Espagne, moins 15%, chiffre donné ce matin par l'Office international du vin. Le temps s'améliore sur la moitié nord, il reste plutôt beau, ensoleillé sur le sud, des températures qui augmentent cet après-midi sensiblement de 13 à 26 degrés du nord au sud. Édition réalisée avec François-Charles Domergue et le prochain journal est à 18h avec Aurélie Kiffer.